Podcar, c'est le podcast dédié à l'art contemporain et la charte Un immeuble, une œuvre. Chaque semaine, je vous emmène dans les coulisses de ces projets et vous fais découvrir le travail des artistes, des galeristes et des acteurs engagés pour faire rayonner cette charte. Retrouvez ces projets et le travail de nos invités sur le compte Instagram de l'agence Monumentart. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous présenter Tim's Day. Né à Hong Kong en 89, Tim arrive en France en 97. À 14 ans, il commence à peindre ses premiers lettrages. Après l'obtention d'un master en finance, il s'installe à Bombay. C'est en Inde que sa double vie, en costume le jour et en graffeur la nuit, lui inspire son personnage noir masqué, tiré de la légende de Zorro. Il démissionne en 2014 et revient à Paris pour se consacrer au street art. Zday fait partie de cette nouvelle génération de street artistes français qui occupe le devant de la scène artistique européenne. Il est l'auteur de la fresque « Liesse vagabonde d'un monde riant » réalisée pour une résidence étudiante à Villejuif par Bouygues et Link City. Bonjour Tim, merci d'avoir accepté mon invitation. Alors tout d'abord, qui es-tu ? Peux-tu nous parler un petit peu de toi ?
Mon nom, c'est Tim's Day. Je suis artiste peintre, j'ai 31 ans. Je vis et je travaille à Paris, là plus précisément à la Courneuve, à la mairie de Bervilliers, là où on est maintenant. Et d'habitude, je voyage beaucoup, ce qui fait partie de mon activité d'artiste plutôt d'extérieur. Mais là, depuis un an, je me suis concentré sur mon travail d'atelier. Donc en ce moment, plutôt, travail dans mon studio, quoi.
Ok. On dit souvent que tu es un artiste street art. Est-ce que tu es d'accord avec cette définition ?
Street art, c'est un mot un peu générique qui définit pas grand-chose, je trouve. C'est vrai que j'ai découvert la peinture par le graffiti, donc par le lettrage, que j'ai fait pendant 10 ans avant de créer mon personnage et de développer d'autres univers. J'ai beaucoup peint de murs, alors on aurait pu dire artiste, ouais, dans l'univers street art, c'est moins le cas aujourd'hui. Je passe beaucoup plus de temps à peindre des toiles, à faire des projets qui ont été commandés ou à faire des projets dans des écoles. Et alors, est-ce que c'est du street art? Je sais pas. Je crois que je suis juste un artiste peintre et qui intervient sur des supports très différents. Je fais tout, en fait, je m'adapte. Mais culturellement, je viens du graffiti. Ouais.
Tu peux nous parler un petit peu de ce personnage?
Ouais, mon petit bonhomme. Donc Zday, je l'ai créé quand je travaillais en Inde. Mon parcours est pas très classique. Et j'ai fait une école de commerce et je suis parti m'installer à Bombay à la fin de mes études. Et là-bas, j'avais un boulot dans une grosse boîte en costume, cravate la journée. Et je peignais le soir et le week-end. Et j'ai toujours eu envie de trouver un personnage qui parle à tout le monde. J'ai toujours eu envie de faire ça, j'ai jamais trop réussi jusqu'à ce déclic que j'ai eu en Inde. Donc je me suis inspiré de Zorro pour créer le personnage. Donc Zorro qui signe avec un Z. Mon nom avant c'était Sodey, S-O-D-E-Y. Et quand j'ai créé le personnage, j'ai gardé le D-E-Y de mon blast d'avant et le Z de Zorro, ça fait Zday, quoi. Et à partir du moment où le personnage est né, je suis plus jamais revenu en arrière sur mon nom, quoi. C'est Zday. C'est le nom du personnage aussi. Et moi, donc le papa du personnage, c'est Tim's Day.
Comment ta pratique a évolué au fil du temps ?
Elle a évolué. D'abord, ce personnage, je l'ai beaucoup peint en Inde. Je me concentrais à ce moment-là beaucoup sur lui, sur la forme qu'il prenait, essayer de le définir plus précisément, le mettre en mouvement. J'ai jamais été un très bon dessinateur, donc ça m'a coûté, quoi. Quand j'ai démissionné de mon boulot et que je suis venu m'installer à Paris pour me dédier uniquement à ma peinture, j'ai beaucoup peint à nouveau dans la rue. Là, j'étais très dans le noir et blanc, très concentré sur lui, sur le personnage. Et une fois que j'ai réussi à le mettre un peu en mouvement, j'ai commencé à créer des univers graphiques autour de lui pour qu'il puisse se déplacer dans un monde, quoi. Et c'est là que j'ai eu un petit déclic sur ces lignes, sur ces bandes optiques avec les ombres. Et c'était en performance que ça m'est venu, ça. Et du coup, j'ai commencé à développer ces univers-là autour, beaucoup autour de l'optique. Et en fait, au fur et à mesure du temps, mes univers se nourrissent en y apportant de la couleur, en y apportant des formes différentes. Donc, ils évoluent en permanence. Et si bien que ces univers parfois existent sans le personnage. En fait, moi je me suis assez même détaché depuis quelques années du perso. Je l'ai laissé à sa place dans les écoles où je le peins beaucoup, dans les projets comme le projet de jeu vidéo que je fais en ce moment, où là tout tourne autour de lui. Il fait sa vie par d'autres médias, par d'autres moyens, mais tout ce travail qui était à la base des univers pour lui sont devenus même les univers sur lesquels je me concentre le plus aujourd'hui, quoi. Et ils sont tous en mouvance, en fait, ils évoluent. Je pense que tous les 6 mois, il y a un petit changement, quoi, donc ils se nourrissent comme ça au fil du temps.
Tu as participé à un projet porté par la charte Un immeuble, une œuvre pour une résidence à Villejuif, portée par Bouygues Bâtiment et Link City. Couloirs, ascenseurs, plafonds, au total 2500 mètres carrés ont été investis par 5 artistes dont tu faisais partie. Comment tu as abordé ce projet de fresque?
Alors ouais, c'est un projet que l'agence Urban Art Paris avait gagné et ils nous ont invités, on était 5, on avait chacun un étage. Donc on devait chacun embarquer les étudiants dans notre univers à chaque étage. Et on avait 5 styles assez différents, ça qui est cool. Et je l'ai abordé vraiment comme une expérience visuelle. On s'est dit on voulait que chacun soit fier d'habiter à l'étage d'Asto, d'Astro, de Théo Lopez ou de Olivia Debona. Et c'est comme ça qu'on l'a fait, qu'on a chacun créé notre monde. Et moi, j'ai voulu faire un truc assez psychédélique. Je suis en train d'imaginer les étudiants rentrer de leur étage et partir un peu dans mon monde. Donc je voulais vraiment les embarquer. Mes lignes, en fait, elles courent. Enfin, elles sont en continu sur les murs, sur le plafond, sur le mur d'en face, et ça tourne, ça crée un espèce de tourbillon sur une partie des couloirs. Avec une anamorphose aussi qui apparaît en fait, il y a mon personnage qui apparaît à un angle très précis. Et il n'y a pas forcément de point pour le découvrir, donc on peut passer un an sans s'en rendre compte, d'un coup découvrir qu'il y a l'anamorphose est là. Elle est assez discrète, mais c'est créer quelque chose d'assez interactif comme ça, quoi.
En réalisant cette fresque dans une résidence étudiante, tu participes à rendre l'art plus accessible, à l'intégrer dans la vie quotidienne. Selon toi, pourquoi l'art est-il si important dans nos vies?
C'est un moyen de se connecter, de partager, d'embellir le quotidien des gens. Là, je parle de peinture, hein, parce que c'est mon métier. C'est une question assez compliquée. Je suis pas philosophe ni chercheur, mais je sais que quand je fais des projets dans la rue et que je peins des façades qui étaient complètement grises et que je rechange, en tout cas, l'environnement des habitants du quartier où je peins, j'ai des retours super, super positifs. Et je pense qu'il n'y a rien de plus beau quand on. En tant que peintre, donc dans la rue, d'avoir des merci des résidents, de ceux qui habitent là, quoi. Et ça m'arrive souvent d'avoir des vrais retours, des gens qui prennent le temps, qui s'arrêtent, qui me font descendre de mon échelle parce que pour me dire un mot, et juste en me disant bah, merci pour ce que vous faites. Et je pense que bah, y a pas besoin de chercher plus loin, quoi. Là, tu te dis que tu as réussi ta mission et que ça a du sens. Et donc l'art, mais plus globalement la culture, en fait, c'est fondamental. Ça rend la vie plus chouette, plus vivante, ça crée. Des connexions entre les humains, ça crée l'âme d'une ville. Donc, ouais, pour moi, c'est fondamental.
Pour ce projet, quelles ont été tes inspirations?
Bah justement, c'est dans le nom, c'est planqué dans le nom, les inspirations. Je suis parti sur des couleurs primaires et j'ai utilisé mes univers optiques pour construire la fresque. Donc la fresque s'appelle Liesse vagabonde d'un monde riant. L'idée, c'était de partir sur des compositions de monde riant, que j'ai complètement éclaté, évidemment, il n'y a rien de très. Il n'y a aucun angle droit dans tout ce que j'ai fait. Moi, mon univers optique, c'est un jeu, en fait, que je me suis créé. En fait, c'est des unités. Donc, tu as 3 bandes blanches et 2 de couleur. Ça, c'est mon unité. Et que j'essaye de jamais changer. Et ensuite, il y a des angles que je réplique. Et il y a toujours une symétrie axiale, ou horizontale, ou verticale. Et donc, j'essaie de répliquer comme ça. Donc, en fait, j'ai une espèce de règle de mon jeu. Et quand j'arrive dans un endroit, il y a un espace, donc une contrainte, et je fais évoluer mes bandes en respectant les règles de mon jeu. Et donc je compose comme ça, en fait, en freestyle, quoi, enfin, sur le vif, quoi. Et donc en fait, moi, quand j'arrive le matin, je sais pas ce que je vais faire. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner, quoi. Je compose avec ce qu'il y a autour de moi, quoi, dans les règles de mon jeu. Donc voilà, ça c'est le contexte que j'avais avec les couleurs primaires de Mondrian, et puis après. Ça a donné ce que ça a donné, quoi. C'est assez fou. L'endroit est assez psychédélique. J'en suis super content.
Liesse vagabonde d'un monde riant, c'est le titre de cette œuvre. Comment t'es venu ce titre?
De l'inspiration de Mondrian. Je voulais retranscrire dans le titre ce côté très, très ludique de la fresque. Donc, chercher un jeu de mots et un titre avec tu vois, une sonorité un peu chantante, quoi. Alors, exactement comment il m'est venu, je ne sais pas. Mais tout d'un coup, je sais pas, il est sorti dans la tête. Je me suis dit, tiens, il est cool celui-là. Et il y avait tout dedans, quoi. Il y avait ce que je voulais raconter, c'est-à-dire la jovialité de l'intention. Du rendu et les références, quoi.
Est-ce que c'était une carte blanche ou est-ce qu'il y avait quand même des contraintes à respecter? Est-ce que tu avais des indications?
Non, c'est une carte blanche totale. Parce que, encore une fois, même moi, je savais pas trop ce que j'allais faire. Donc, je pouvais pas proposer quoi que ce soit parce que j'avais pas de dessin, en fait. J'avais une idée, j'avais des couleurs. Et après, c'était de la construction au fil de la fresque, quoi.
Et justement, comment travailles-tu? Est-ce que tu réalises des travaux préparatoires ou au contraire, est-ce que tu te laisses porter par le lieu et par l'espace?
Ça dépend beaucoup du lieu, du contexte, de ce que j'ai envie de faire. Il y a des endroits où mes formes géométriques sont millimétrées, où je veux que ça rentre pile poil, que ça flotte pile poil à tel endroit du mur. Donc là, c'est super contrôlé. Donc j'ai mon intention que je fais sur ordinateur. Et après, que j'adapte en live sur le mur. Mais là, du coup, c'est toujours très calculé, très millimétré. Toutes les bandes sont super parallèles. J'ai des dimensions de largeur de bande. Tout ça bouge pas. Mais voilà, il y a des murs que je dois préparer. Et puis des murs comme ça, où, quand c'est plus, quand j'utilise mes lignes plus invasives, comme j'ai fait justement à Villejuif, là, je prépare rien parce que ça sert à rien, en fait. Même modéliser le truc, c'est impossible. C'est un cassette, pas possible. Il vaut mieux le faire direct, quoi. Après, il y a comme la fresque que j'ai fait en Irak, où là on avait 4 jours pour peindre la fresque. Bah, j'ai dû préparer un truc en amont. Alors, j'ai demandé aux étudiants avec qui j'ai fait la fresque, donc des étudiants de la section des beaux-arts de l'université de Mossoul. Eux ont apporté plein d'éléments à eux dans mon dessin. C'était l'idée, c'était de faire une collaboration. Mais ma base était assez calculée. Parce qu'en 4 jours, t'as pas le temps de réinventer un univers sur un mur de 200 mètres carrés, quoi. Donc il y a parfois, voilà, le contexte, les contraintes font qu'il faut se préparer quand même pas mal.
D'autres artistes ont travaillé en même temps que toi sur ce projet. Il y avait Asto, Astro, Olivia de Bona, Théo Lopez. Est-ce que cette proximité a eu une influence sur ton travail?
Non, parce que j'étais dans, comme je disais, j'étais dans mes règles, dans mon jeu, dans mon truc, je savais où j'allais. Tout ce que ça a fait, c'est que c'était cool de les voir et de boire des petits cafés avec eux et de se marrer, quoi. Et de passer les voir, voir leur étage évoluer aussi en parallèle, parce qu'on a des univers assez différents, donc c'est cool de voir comment chacun attaque son étage. Donc c'était chouette à vivre, mais je crois qu'on était chacun dans nos mondes.
Il t'a fallu combien de temps pour réaliser cette œuvre?
On a fait ça en 2 semaines, il me semble. Un peu moins. Mais ouais, quelque chose comme ça, quoi. Un peu moins de 10 jours. 10 jours.
Ton travail est très coloré. Quelle est l'importance des couleurs pour toi?
Ben justement, la couleur, en fait, elle est arrivée un peu plus tard. J'ai fait beaucoup, beaucoup de noir et blanc pendant un moment. Au départ, c'était sortir du noir et blanc. En fait, je passais ma vie avec du noir et blanc devant les yeux. Et à un moment, en fait, quand j'ai commencé à mettre de la couleur, ça fait vachement de bien. Parce que du coup, tu passes tes journées dans des trucs beaucoup plus colorés. Et de plus en plus, en fait, mes univers s'ouvrent. Et la couleur rentre dedans. J'ai tellement de trucs à faire. Pour moi, la couleur, c'est... Déjà, c'est une infinité de possibilités pour explorer, pour développer et nourrir mes univers. C'est quelque chose d'universel dans tous mes voyages que je fais, où je prends des murs à droite à gauche dans le monde. C'est un moyen de parler avec des gens de cultures super différentes, sans partager même la même langue. J'ai peint des fresques avec des gens dont on parlait même pas la même langue, mais juste avec des couleurs et des sourires, on a fait un mur ensemble, quoi. Et c'est ce côté universel qui est magique, quoi.
Comment choisis-tu les lieux où tu vas intervenir?
Ben, c'est beaucoup sur des invitations, donc c'est des propositions souvent. Et sinon, quand c'est à l'étranger, que c'est des peintures dans la rue plus spontanées, ça nous est arrivé dans les projets de juste toquer à la porte et de demander si on pouvait peindre la maison de la famille qui habitait là. C'est assez, assez spontané. Ça dépend tellement des projets, c'est dur de répondre à cette question.
Comment les spectateurs ou les passants réagissent habituellement face à ton travail, souvent exposé dans les lieux publics?
Bah plutôt positivement, c'est ce que je disais tout à l'heure. La dernière expérience comme ça que j'ai eue où vraiment on a été impressionné par les retours, c'était à Antibes. Donc c'était en octobre dernier, un festival qui s'appelle Couleurs d'automne m'a proposé. À l'entrée d'Antibes, il y a la Provençale qui est une autoroute qui passe au-dessus de deux voies. Et donc il y a un énorme rond-point avec un flux qui rentre dans la ville, un flux qui sort. Donc là, il y a trois piliers gigantesques. Ils ont identifié cet endroit comme étant un endroit à peindre pour le festival. Ils ont pensé à moi et donc ils m'ont proposé cet endroit-là. J'ai dit go tout de suite. En termes de surface, je ne sais pas ce que ça fait, mais c'est assez grand. Et là, on a complètement retourné le lieu. C'est un endroit assez gris, assez sombre, assez glauque. On l'a complètement changé. Et les passants nous disaient, mais je passe là tout, ça s'arrête. Et nous disaient, mais ça arrive toutes les 5 minutes, c'est ça qui est fou. Je pense que en total, si je suis resté 2 semaines, et on a eu, je sais pas, 50, 60, 70 personnes qui se sont arrêtées, qui me disaient, mais merci pour ce que vous faites. Avant, c'était triste de passer là, et maintenant, je suis content d'y passer tous les jours, quoi. Et c'est fou, quand on entend ça, on se dit, voilà, la mission, elle est plus que réussie. Et donc, plutôt positivement, après, c'est vrai que moi, ma volonté dans la peinture, c'est de faire quelque chose d'universel, qui soit empreint d'une énergie positive, qui soit très inclusif aussi. Et donc voilà, quand j'ai ces réactions-là, je me dis que ma mission est réussie. Ouais.
Quels sont tes projets en ce moment?
En ce moment, je me concentre pas mal sur ma peinture d'atelier, donc sur des œuvres qui sont exposées en galerie. Et je prépare, j'ai mon jeu vidéo qui prend pas mal de temps quand même. Donc le jeu est fait, mais on a une campagne de Kiss Kiss Bank Bank pour développer le jeu, aller plus loin, créer d'autres niveaux. Donc c'est un jeu vidéo qui a été développé sur NES. Et puis j'ai d'autres projets à côté, dont je peux pas trop parler, mais qui sont des choses qui devraient arriver au printemps. Certaines se débloquer une fois que la situation sera plus propice. Et puis toujours des trucs un peu des voyages que je prévois avec mon association Artivista, avec qui on fait des échanges culturels artistiques entre deux pays. Et donc là, le prochain, c'est en Colombie. Et donc les Colombiens, donc c'est trois Colombiens, et nous on est trois Français, et tous artistes. Et donc les trois Colombiens viendront, Colombiens et Colombiennes, parce qu'il y a toujours une parité respectée dans nos échanges. Viendront en septembre prochain pour peindre des murs à Saint-Denis et nous on ira les voir en Colombie à Barranquilla en février 2022, donc dans un an. Et donc on travaille là-dessus aussi avec mon asso. Donc pas mal de choses en préparation, j'en oublie sûrement certains parce que j'ai toujours mis le truc sur le feu. Mais voilà, hâte que tout ça rouvre et qu'on puisse repeindre dehors là.
Justement, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette association? Comment est-ce que l'idée a germé dans ton esprit?
Alors, je ne suis pas membre, je suis parrain, donc je suis toujours là avec eux, mais ils font aussi des projets sans moi. Ça s'appelle Artivista. Et donc, c'est Claire Pratmarca qui vraiment gère l'asso. En fait, elle l'a créé à un moment où on s'est rencontrés, où on avait un projet ensemble. On a peint une fresque de 80 mètres de long dans un lycée, dans les Yvelines. On a fait ça ensemble, elle a créé l'asso. Et donc, le premier projet, c'était partir au Brésil. Donc, toujours dans cet échange de. Donc là, on était quatre Brésiliens, Brésiliennes et quatre Français, Françaises. Et on a fait ce projet-là ensemble. Et là, la suivante, en fait, c'était l'Irak. Donc on est parti à Mossoul, donc c'est beaucoup plus compliqué. Là, c'était pas un échange culturel, parce que déjà, il n'y a pas de visa de touriste, donc on ne peut pas rentrer dans le pays comme ça. Nous, on a eu beaucoup de mal à y rentrer. On a eu besoin du soutien de Jack Lang, de l'Institut du monde arabe, pour débloquer la situation avec l'ambassade irakienne. On a pu y partir, mais donc là, ce que j'ai un peu raconté tout à l'heure, c'est qu'on a peint un mur avec des étudiants de la section des beaux-arts de Mossoul. Donc c'est un échange culturel, mais pour l'instant. En tout cas, en termes de voyage, que dans un sens, quoi. On espère qu'un jour, ils pourront nous rendre visite en France, évidemment, quoi. Et donc, cet asso, moi, je l'accompagne, mais elle fonctionne complètement sans moi, hein. Voilà. Je fais partie, j'ai la chance de faire partie de tous les projets maintenant. C'est-à-dire que je suis toujours invité, toujours consulté, et toujours avec plaisir que je le fais. Mais elle s'appelle Artivista, donc comme artiste et activiste, quoi. Et c'est une très belle asso.
Habituellement, tu voyages beaucoup
Ouais.
et la peinture te permet de faire beaucoup de voyages. Comment est-ce que tu as vécu un petit peu la situation depuis le mois de mars dernier?
Pour être super honnête, je voyageais mais beaucoup, beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a un moment où j'étais un peu perdu dans mes voyages, quoi. J'ai pris tellement d'avions qu'il y a un moment où je me demandais où j'étais, quoi. J'avais du mal à me retrouver et surtout j'avais besoin de passer du temps en atelier pour développer mes univers, justement. Enfin, plus de recherche, j'étais plus dans je sentais que sans avoir ces périodes-là d'incubation un peu, je répliquais beaucoup. Et donc j'avais besoin un peu d'une pause. Ça faisait un petit moment que je disais déjà. Bon, là, elle était un peu forcée. Mais écoute, j'ai la chance d'avoir un métier qui fait que quand je suis à la maison, en fait, je suis dans. Et que je crée, c'est mon état normal, en fait. Sans parler de voyage. Quand je suis pas en voyage, normalement, je suis dans mon atelier et je bosse. Donc ça change pas grand-chose de mes journées, en fait. Tu vois, moi, je vois pas le temps passer parce que je suis dans mes peintures. Et ça, c'est une chance. Et donc, je le prends assez bien parce que de toute façon, déjà, d'une, on n'a pas le choix et que je suis plutôt quelqu'un de positif. Et puis, ça me permet de développer mes univers, ce que je voulais faire. Donc, voilà. Le timing est ce qu'il est et j'en essaie de tirer le maximum, quoi.
Merci, Tim.
Merci à toi.
Cet épisode est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à le partager avec vos proches et à lui mettre un avis 5 étoiles ou le commenter sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité et à tout de suite sur le compte Instagram de l'agence Monumentart.